Hey, super. Alors, ça, Réjean, il est malade, il est dans une chaise. Quand il se déplace, il est dans sa chaise roulante. Et le message de ce matin, c'est un message important qui touche à notre vie d'église, la prière de guérison. La prière de guérison, c'est notre thème de ce matin. Et on va commencer avec des versets clés qui vont nous donner le cadre biblique pour ce sujet, pour comprendre le projet de Dieu pour le corps humain. Premièrement, cet épisode de la vie de Jésus, de son ministère, il est en Galilée, il va de lieu en lieu, et un soir, voici ce qui se passe à l'extérieur d'un des villages où il est. Le soir venu, on amena vers Jésus de nombreux démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies. Ah, ça, c'est Matthieu 8, versets 16 et 17. Vous pouvez prendre note, c'est un passage important. Ceux qui ont leur Bible, oui, vous pouvez maintenant tourner à Hébreux 13, verset 8, un tout petit verset vraiment merveilleux, qui est une base pour notre compréhension de comment vivre la vie chrétienne. Oui, c'est possible, hein? C'est possible. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il peut y avoir des interruptions. Restons focalisés sur la parole de Dieu. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, amen. Et le dernier passage que je voulais lire en introduction parle du Saint-Esprit. Saint-Esprit qui est ici ce matin et qui a toujours accompagné l'Église. Et Jésus a dit, quand le défenseur sera venu. Ça, c'est dans Jean chapitre 16, verset 13, pour ceux qui cherchent. Jean 16, 13. Quand le défenseur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Amen. Donc l'Esprit Saint nous guide encore ce matin. Et alors que nous allons parler de la prière de guérison, j'ai besoin de ce Saint-Esprit pour nous guider, pour nous empuissancer, pour nous faire voir la globalité de la vérité de Dieu dans la mesure où on est capable de le faire en tant qu'humain. Prions le Seigneur. Jésus, envoie-nous le Saint-Esprit. Jésus, guide-moi par le Saint-Esprit. Jésus, oui, c'est un sujet qui est vraiment important pour toi, car tu nous aimes et tu aimes les corps que tu nous as donnés. Et Père aussi, tu vois qu'on a plusieurs difficultés techniques ce matin et des interruptions. Tu vois que Pascal doit travailler fort pour garder la technique à flot. Et Seigneur, que l'Esprit Saint nous guide, nous protège d'être distrait ou découragé par les idées que l'ennemi mettrait dans notre tête, comme quoi il ne faut plus écouter, il ne faut plus recevoir la bénédiction de ta parole. Ô Père, que l'Esprit descende sur nous pour la suite de ce message. Merci d'avance. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alors, lorsqu'on écoute des témoignages personnels sur les prières de guérison et sur les guérisons, et quand moi je les entends, je suis sans cesse étonné par la diversité de ces histoires et la multiplicité des facettes de ce que Dieu fait. Mais évidemment, c'est toujours à travers comment les gens l'expérimentent, hein? Mais c'est très diversifié. Et on va commencer avec des témoignages un peu pêle-mêle que j'ai préparé pour vous, juste pour vous donner une idée de la diversité telle que moi, je l'entends dans les témoignages. Plusieurs se souviennent qu'il y a quelques années, à la conférence jeunesse, je crois que c'était Juan et je crois que c'était Adolard-des-Ormeaux, les jeunes de l'ACM étaient tous ensemble et il y a eu un moment de prière pour les malades et il y a un jeune qui était handicapé, qui ne pouvait pas marcher, qui s'est levé et qui a été miraculeusement guéri. Il s'est mis à marcher, il s'est mis même à danser et à sauter durant la musique, durant la louange, après plusieurs années d'incapacité. Dieu guérit encore aujourd'hui. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça, c'est arrivé il n'y a pas longtemps, et juste à 2 kilomètres d'ici. Maintenant, une autre histoire complètement différente. Un missionnaire qui s'appelle David Brainerd, un missionnaire parmi les Amérindiens au fond de la forêt des États-Unis, un homme de Dieu envoyé pour prêcher l'Évangile à des personnes qui ne le connaissaient pas encore du tout et qui viennent d'un milieu, on va dire, complètement païen. Et il est tombé malade. Et je lisais son journal intime à David Brainerd, qu'il a vécu dans les années 1700. Donc, imaginez, envoyé dans la forêt en 1700 pour amener l'Évangile aux Amérindiens. Et il est tombé malade. Et voici son entrée un soir, il a écrit ceci. Alors qu'il venait juste de vivre cette maladie. Il a dit, « J'ai vu dans cette situation la miséricorde au milieu de l'affliction. J'étais confiné à mon lit jusqu'à vendredi soir, chargé de douleurs presque constamment. Mais par la bonté de Dieu, je ne craignais pas la mort. Puis, vendredi soir, ma douleur est partie assez subitement. J'étais très faible et je me suis presque évanoui. Mais j'étais très à l'aise le soir suivant. Les mots du psaume 118 tournaient sans cesse dans ma tête. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai ce que l'Éternel a fait. Et je pensais à comment il est important de chérir la préservation de notre vie pour l'unique raison de glorifier la bonté et la grâce de Dieu. » Ça, c'est lui-même qui a écrit de sa plume après avoir reçu une guérison. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te frappe là-dedans? Quelqu'un qui se sent interpellé par cette lecture, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager avec nous ce matin? Quelque chose qui te frappe? Amen. Oui, c'est spécial, hein? Pour l'unique raison de glorifier la bonté et la grâce de Dieu. Et c'est vrai. C'est vrai. Ça a du sens, hein? Oui. Merci beaucoup, Luce. On va continuer parce que j'ai plusieurs témoignages ici. Et j'ai un témoignage, mon témoignage à moi. Vous allez voir, c'est assez particulier. Lorsque j'étais jeune, enfant et ado, je souffrais beaucoup de l'asthme. une maladie respiratoire que plusieurs connaissent. Et à l'époque, c'était très handicapant comme maladie. Lorsque j'allais dans la campagne, je faisais des crises d'asthme très sévères à cause des pollens et des autres allergènes. Et je me ramassais souvent à l'hôpital, à l'urgence, puis on me donnait des piqûres d'adrénaline pour me permettre de respirer à nouveau. Parce que j'arrivais plus à respirer ou très peu. Et quand j'ai reçu le Seigneur en 1978, le groupe où on m'avait présenté l'Évangile, ils m'ont invité dans une retraite pour le groupe des étudiants. Et j'ai dit, j'y vais, parce que je veux connaître ce Jésus que je viens de découvrir. Et j'ai découvert que c'était à la campagne. Et j'ai découvert que c'était dans une ferme. Et je sentais que le Seigneur, il demandait d'y aller pareil. Et j'ai vraiment prié. J'ai dit, Dieu, si c'est vrai que tu m'appelles à toi, bien, écoute, s'il te plaît, aide-moi dans ma santé, parce que tu sais comment je tombe malade dans les fermes. Et en fait, Cheryl était dans cette retraite aussi. Mais ça, c'est une autre histoire. Et on racontera ça une autre fois. Mais bon, elle était là, et c'était dans une ferme dans les alentours d'Ottawa. Et puis, j'ai dormi deux nuits dans une grange transformée en dortoir. Et j'ai pas du tout souffert d'asthme. Je me levais le matin et j'en croyais pas mes poumons. Littéralement, j'en croyais pas mes poumons. Et j'ai dit, merci Seigneur. Et je sentais que le Seigneur me disait, Marc, là, tu as maintenant une nouvelle façon de vivre. Ne laisse rien t'empêcher de faire ce que je t'appelle à faire, puis je vais te donner la protection ou la santé qu'il faut à chaque étape. Et c'est une leçon que j'ai apprise dès les premiers jours dans cette ferme. Par contre, quelques années plus tard, il y a des prédicateurs qui sont venus à Ottawa, qui prêchaient la guérison. Et vraiment, ils mettaient l'accent sur la guérison. Et je suis allé en écouter un au grand stade à Ottawa. Et je suis descendu à l'appel pour recevoir la prière de guérison. Et je me disais, bien, Dieu promet de guérir. J'ai cet asthme. Ce serait un péché de ne pas y croire que Dieu veut me guérir. Et il faut que j'exerce ma foi. Je suis descendu. Plus Dieu me guérit de plus d'affaires, plus ça va le glorifier. Et j'ai reçu l'imposition des mains. Et le lendemain, ou le soir même, je ne me souviens pas, dans un acte de foi, j'ai jeté tous mes médicaments dans la poubelle. Mais quelque chose ne tournait pas rond. Mon asthme continuait à me déranger. Je continuais à m'efforcer de croire, à persévérer, à prier. Et un jour, mon corps ne fonctionnait plus du tout. Je me suis retrouvé à nouveau à l'urgence. Et le médecin qui s'occupait de moi m'a dit, « Jeune homme, votre taux d'oxygène dans votre sang est rendu proche de la limite de la mortalité. Qu'est-ce qui s'est passé? » J'étais obligé de raconter à cette femme, à ce médecin, ce que j'avais fait, ce que j'avais... Et elle s'est fâchée contre moi. Elle a dit, « Jeune homme, pourquoi vous gaspillez mon temps puis les ressources de l'hôpital? Vous avez des médicaments, prenez-les. » Alors, qu'est-ce que j'ai retenu de ça? J'ai compris que Dieu, bien que dans certaines situations précises, m'avait donné la protection ou la guérison, mais à ce stade-là, il avait décidé de ne pas encore me donner la guérison totale de l'asthme. C'est un témoignage, c'est ce qui m'est arrivé. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer à marcher par la foi et d'aller là où le Seigneur me demandait d'aller, avec mes médicaments. Ici à l'Oasis, nous avons prié souvent pour des malades le dimanche et ailleurs, et plusieurs personnes sont venues me voir Je me souviens de trois personnes en particulier en 2017 qui sont venues me voir et qui m'ont dit, j'ai vraiment vu une différence que je ne peux attribuer qu'à la prière. J'ai été guéri grâce à la prière qu'on a faite pour moi ou à l'onction d'huile. Mais je ne vous cacherai pas qu'il y en a d'autres qui sont venus me voir et qui m'ont dit, Dieu ne m'a pas encore guéri. Ça, c'est des témoignages. Moi-même, dans la prière ici, en 2013, je me suis avancé. On a prié pour des verrues que j'avais dans mes pieds et dans mes mains. Et alors que mon dermatologue me donnait le traitement le plus agressif et disait, vous allez voir, ça va être guéri. Ce n'était pas guéri, mais la prière, elle, a fait que les verrues sont parties. Je pourrais continuer. On pourrait évoquer le témoignage de la semaine passée aussi. Le témoignage de Laura Lee, où elle a été guérie avec une combinaison de prières, de traitements médicaux et de temps. Hein? Si j'ai bien compris le témoignage, il y a eu une période de temps où est-ce que Dieu a voulu que Laura Lee entendre quelque chose de sa part. Et cette communication a contribué à sa guérison. On pourrait continuer et continuer et continuer. Il y a toutes sortes de témoignages. On sait que Dieu guérit, mais la diversité, elle est là. Et vous, vous pourriez me raconter un paquet d'histoires, je le sais, et de témoignages. Mais on ne peut pas, frères et sœurs, on ne peut pas baser notre approche à la prière de guérison sur les témoignages. Il faut que ce soit par la parole de Dieu. Amen. On va se tourner vers la parole de Dieu. Les témoignages sont là pour nous encourager, pour confirmer la parole, mais c'est la parole vers laquelle on va se tourner maintenant. Et puis c'est elle qui va nous guider dans notre doctrine de la guérison, et elle seule. Ce que je veux faire maintenant, c'est regarder quatre vérités qui viennent du plan de Dieu qui nous sont données dans la parole de Dieu par rapport à la maladie et au corps humain. Quatre vérités qui sont fondamentales. Premièrement, la mort du Christ pourvoit pour nous la victoire sur la maladie. Ça, c'est le point de départ. Deuxièmement, avant notre mort, la victoire sur la maladie, bien qu'on puisse la vivre, elle est toujours partielle. Je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, la parole va nous expliquer pourquoi. Troisièmement, la vie de Christ en nous nous donne la victoire. Et finalement, notre motif pour rechercher la guérison est important. On y va? Et on va clore, à partir de ces quatre vérités, des lignes directrices pour notre pratique de la prière. Premièrement, la mort du Christ pourvoit pour nous la victoire sur la maladie. Donc, on a lu ce que Matthieu il disait en racontant la vie de Jésus par rapport à la guérison. Et il nous a rapporté vers cette extraordinaire prophétie d'Ésaïe. Ésaïe qui, plusieurs centaines d'années avant la naissance de Jésus, il a raconté en quelque sorte, ce que Jésus allait accomplir sur nous, par sa vie et surtout par sa mort et résurrection. Dans Ésaïe 53. On en parle beaucoup parce que les apôtres en parlent beaucoup. Et pour ceux qui ne connaissent pas bien, alors, ils parlent au passé, mais en fait, ils se projettent dans le futur. Puisque lui a écrit plusieurs centaines d'années avant, et il parle comme s'il écrivait après Jésus. Il dit, nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Amen. Amen. Alors, nous voyons ici une double action de Jésus. Enfin, en une seule action, Jésus règle deux de nos problèmes. Deux de nos problèmes. D'abord, le péché. Donc, voyez-vous, en mauve ici, Ésaïe dit, ben voici le résultat de la croix, c'est qu'il va être blessé pour nos transgressions, brisé pour nos fautes. Là, on parle du péché ici. On parle de notre séparation morale et spirituelle d'avec Dieu et de la punition qui s'ensuit. La punition qui nous donne la paix est tombée non pas sur nous, mais sur lui. Amen. Premier problème, Jésus va le régler. Il va mourir à ma place et moi, je vais déclarer juste. Je vais déclarer non seulement juste, mais libéré de la puissance du péché. Une nouvelle manière de vivre. Mais il y a un deuxième problème qui est réglé et c'est Matthieu qui le soulève dans ce qu'on a vu tantôt. Il dit qu'il nous libère de la maladie. Et en vert, oh, c'est plus visible. Attends, on va reculer. Mais vous voyez, on va le faire flasher comme ça. Pourtant, c'est nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Matthieu dit, il s'agit aussi de la maladie. Et par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ça s'applique aussi à la maladie. Et c'est vrai, quand on voit plus en détail ce que Jésus a accompli à la croix, sa mort et sa résurrection pourvoient pour nous une nouvelle santé, un nouveau corps. Nous allons vivre en santé parfaite. C'est ça notre destinée. Amen. Alors, Jésus a pourvu ces deux solutions-là. Alléluia? Amen. Bon, OK. Maintenant, on arrive à un point important ici, qui est que quand on parle de maladie, eh bien, oh, on est bloqué. Ouais, il faut repartir l'ordi, mais c'est pas grave. La maladie, c'est le processus de mort qui est dans notre corps, d'accord? Quand on est malade et que notre corps n'est pas capable de vaincre, ou la puissance de vie biologique dans mon corps n'est pas capable de vaincre cette puissance de mort, bien, je vais mourir, voyez-vous? Donc, la maladie et la mort peuvent être presque des synonymes dans le langage biblique. Et c'est pour ça que je dis que, et mon deuxième point, c'est que avant notre mort terrestre, même en tant qu'enfant de Dieu, la victoire sur la maladie, elle est toujours partielle. Pourquoi? Parce que malgré les guérisons qu'on vit, on va quand même mourir. Est-ce que vous êtes d'accord? Il y a une seule exception, ceux qui vont être vivants quand Jésus revient. Ils vont être transformés parce qu'ils vont être face à face avec lui et ça sera comme une mort physique et une résurrection physique. C'est juste que ça sera, il n'y aura pas de funérailles, ça va être instantané. OK? Mais on a besoin, la manière que Jésus nous sauve, on a besoin de passer par cette mort physique. Et cette mort physique, ça passe par la maladie. Quand quelqu'un vit une vie chrétienne fidèle, Dieu va l'aider à ce que la puissance de vie, la santé, le système immunitaire va vaincre les maladies. Mais à un moment donné, la maladie va devenir de puissance égale, puis à un certain moment, va devenir plus fort, et c'est là que les personnes âgées, c'est la faiblesse, c'est l'âge, c'est la maladie qui prend le dessus, et on va tous passer par là. C'est ce que la science nous dit. La Bible nous le dit aussi. La Bible nous le dit aussi, puisque depuis la chute de l'homme, Dieu a soumis le corps de tous les humains à la corruption. Ça, on l'a vu. Est-ce que vous me suivez jusqu'à date? Ça va? Oui. Donc, il y a une bonne nouvelle, c'est que Dieu a un projet à long terme. Et ce projet à long terme, c'est de nous donner la santé parfaite. Et nous en vivons des dépôts maintenant, des expériences de ça maintenant, et parfois des guérisons miraculeuses. Mais c'est partiel par rapport à ce qui s'en vient, très important. Ça ne change pas, même si c'est partiel, ça ne change pas la bonne nouvelle de base, qui est que déjà en nous, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Ça, c'est Romains 8, verset 2. Vous pouvez chercher, c'est très important. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Par contre, Paul va dire aussi, il va parler de l'expérience partielle en même temps. Il dit dans 2 Corinthiens 4, verset 7, en parlant du Saint-Esprit, il dit, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. » OK, des vases de terre. Le vase, symbole de quelque chose de fragile. À l'intérieur du vase fragile, une puissance extraordinaire. Nous savons en effet, là je continue à partir du début du chapitre 5 de 2 Corinthiens, nous savons en effet que notre habitation terrestre, notre corps, notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, si elle est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu. Une habitation éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. Et nous gémissons dans cette tente avec l'ardent désir de revêtir notre domicile céleste. Amen. Okay, est-ce que vous voyez comment le plan de Dieu pour la victoire finale s'étend dans le temps? Et pour la personne malade peut expérimenter des guérisons miraculeuses ou semi-miraculeuses durant sa vie, mais c'est toujours partiel en attendant le retour de Christ. C'est comme ça que Dieu a fait le plan. Et je voulais vous montrer un beau tableau, mais je vais vous le raconter parce que le tableau, vous n'allez pas le voir. Je vais vous raconter le tableau que j'ai pris du livre de Richard Sipley, « Comprendre la guérison divine », un livre que j'ai pu consulter cette semaine. Puis, si quelqu'un s'intéresse à ce livre, je peux vous le montrer aussi. Donc, et en passant, autre petite remarque bibliographique, le docteur Benoît Lapierre a prêché sur Jésus guérisseur en juillet 2016. Un très beau sermon. Son message est sur notre site web dans les archives. Donc, allez dans les sermons en archives, juillet 2016, et Benoît parle aussi de certains de ses thèmes aussi. Ça vaut la peine. Mais le tableau, il dit quoi? Le tableau, il dit, de la même manière que le péché, c'est mon problème numéro un dans les deux problèmes, le péché, mon statut depuis que Christ est mort pour moi et que je l'ai reçu, mon statut, je suis complètement pardonné, complètement libéré. Ça, c'est mon statut. Mon expérience de chaque jour, je vous le dis, j'espère que je ne suis pas seul, ma libération du péché, je la vis à chaque jour, mais elle est partielle. Elle est partielle, c'est-à-dire que je rencontre régulièrement la, oh yes, la force du vieil homme qui revient à la charge et il peut m'arriver de tomber, je dois confesser, je dois demander pardon au Seigneur, être purifié à nouveau et recommencer. Donc, si je suis un chrétien normal, je dirais la victoire est là et je la vis partiellement et espérons de mieux en mieux. Donc, voici, il y a encore du péché en nous, nous commettons des péchés. Par contre, il y a toujours la victoire possible. Nous pouvons être pardonnés, avoir la victoire sur les péchés et sur le péché. Mais au retour de Christ, quand nous le verrons face à face, nous serons transformés à la ressemblance de Christ, parfaits en sainteté pour l'éternité. Hein? Peut-être que ça choque un peu cette réalité-là, mais c'est la vérité. Si tu dis « je suis sans péché », eh bien, tu fais de Dieu un menteur, nous dit l'apôtre Jean. Alors, oui, la victoire est toujours là pour toi, mais ta victoire, sois humble, reconnais qu'elle est partielle de jour en jour et tu vas de victoire en victoire. Et pour la maladie, qui est le processus de mort dans mon corps, c'est la même chose. Mon statut à cause de Christ, sa mort et sa résurrection, la mort, elle est à la fois ôtée et détruite. On est déclaré immortel. On est déclaré immortel. Savais-tu que tu es immortel? OK. Mais ton expérience de chaque jour, qui est la mienne aussi, victoire dans un sens partiel sur le processus de mort dans ma vie. La preuve, c'est que je vais mourir. Je vais mourir et c'est pas grave. Ça va pas être le fun, mais c'est pas grave parce que au retour de Christ, nous serons transformés à la ressemblance de Christ, recevant notre corps glorifié et parfait pour l'éternité. Amen. Donc, très important de voir ce plan qui met les choses en perspective. Bon, troisième point, troisième élément de vérité. La vie de Christ en nous nous donne la santé qu'il faut, la victoire qu'il faut pour notre vie, pour notre moment présent en particulier. Quand tu es devenu un enfant de Dieu, Jésus est venu vivre en toi. Lui, il est en toi, toi, tu es en lui, tu fais partie de son corps et il vit sa vie de résurrection en toi. Il y a plusieurs réalités que cela amène dans ma vie à ce moment-là. Il y a un nouveau moi qui a été créé. La Bible appelle ça le nouvel homme, mais ça peut être la nouvelle femme si tu es une femme. Il y a une nouvelle Francine que Jésus fait vivre en toi. Il y a une nouvelle Aziel qui est en Aziel. Et si tu prends la décision de te dévêtir de l'ancienne Aziel, et de revêtir la nouvelle Aziel qui est en Christ, tu vas vivre des victoires, toutes sortes de victoires. Une des choses, c'est un nouveau courage de vivre, une nouvelle façon d'aborder la vie. Et comme on a vu un petit peu dans les témoignages de tantôt, mais qui sont enseignés par la parole de Dieu, cela se manifeste de différentes façons. La victoire sur la maladie et sur la mort, la victoire sur la peur de la maladie et la peur de la mort. Il y a différentes manières que Dieu peut répondre à ta prière. Et c'est important parce que ça nous aide à prier. Dans certaines situations, tu vas prier pour une guérison miraculeuse et Dieu va te la donner. Dieu, il va te la donner. Cheryl me racontait une histoire que je ne connaissais pas, que son père, Carl Smith, que certains connaissent, parce qu'il a prêché 3 ou 4 fois dans notre église, il y en a même qui disent que c'est leur prédicateur préféré à l'Oasis, mais il est maintenant auprès du Seigneur. Il est maintenant auprès du Seigneur. Il est décédé en janvier 2017, mais Vers 1981, il a été diagnostiqué du cancer du côlon. Et il était dans un milieu d'église pas particulièrement charismatique, moins que l'Oasis, pour vous dire. Et donc, plus style Église des Frères. Mais quand même, il prie pour les gens malades. Ils ont prié pour sa guérison. Je demandais à Cheryl, est-ce que c'était une imposition des mains? Elle a dit, je ne crois pas. Je crois que les gens ont prié dans leur maison. Alors, il a été envoyé du petit village où il était, où ils ont diagnostiqué le cancer. D'après ce que les souvenirs, il a eu une biopsie. Il a été envoyé à Boston pour un traitement sérieux là, de chimio. Ils ont refait des tests. Ils ont dit, on ne commence même pas les traitements. Il n'y en a pas de cancer dans votre corps. Il a été guéri. Il a eu 35 ans de ministère après ce diagnostic. Et laisse-moi vous dire qu'il en a déplacé de l'air et du monde. Et bien, vous le connaissez un peu. Et quand c'était son temps, en janvier, il est mort. Il a eu une belle mort. Il s'est levé le matin, s'est assis dans sa chaise pour prier, puis il ne s'est jamais relevé. Et il est mort. Oui, c'est ça. Mais il a eu ses 35 années. Guérison miraculeuse. Dieu guérit encore aujourd'hui. Il peut y avoir des guérisons, on va dire semi-miraculeuses, comme celle de Laura Lee qu'elle a racontée la semaine passée, parce que c'est une guérison qui a inclus la prière. Je sais, mais j'ai fait partie de ceux qui priaient pour elle. Elle nous envoyait des courriels avec des mises à jour et on priait chaque semaine. Mais on a compris qu'elle a subi les traitements médicaux. Il ne faut pas oublier que le corps travaille aussi. Dieu a mis de la guérison, des processus de guérison naturels dans nos corps. Et comme j'ai dit, il y avait ce temps. Dieu n'a pas guéri tout de suite. Il voulait lui parler de quelque chose. Est-ce que vous vous souvenez, ceux qui étaient là? Il voulait qu'elle comprenne la grâce gratuite, sa grâce gratuite pour elle, qu'elle n'avait pas besoin d'être guérie pour faire des œuvres méritoires de missionnaire. C'est ce qu'elle nous expliquait. Et c'est dans la mesure qu'elle a entendu ça que, selon elle, le processus de guérison a vraiment enclenché. J'ai mentionné également mon exemple de quand je suis allé à la ferme. Quand je suis allé à la ferme et je m'attendais à me réveiller comme asphyxié ou presque, et j'en croyais pas mes poumons. Et là, c'est comme des guérisons, je ne sais pas si c'est une guérison ou une protection, que Dieu donne pour une tâche, une situation particulière. Là aussi, c'est une victoire sur la maladie que Dieu m'a donnée, mais qui s'est traduit aussi par « vas-y, aie pas peur, je vais te protéger, je vais te guérir, je vais te donner ce qu'il faut ». Et je voulais parler justement de ce courage. Je pense que c'est important de le mentionner parce que Jésus, lui, il a été, pour nous, il a accepté une mission qui a détruit sa santé. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'a pas eu peur. Il a eu peur, mais il est allé pareil. Et toute la torture qu'il a vécue et la crucifixion qui cause une asphyxie, selon ceux qui ont étudié la science de ça, tu n'es plus capable de respirer parce que tout ton poids, à un moment donné, empêche tes poumons de fonctionner, ton diaphragme, etc. On peut dire que Jésus, dans un certain sens, est tombé totalement malade pour nous et il en est mort. Puis Dieu l'a ressuscité. Mais je pense que beaucoup de nos missionnaires, dans les 250 dernières années, on peut dire que dans l'histoire du christianisme, le mouvement missionnaire des églises évangéliques et protestantes et catholiques aussi est extraordinaire. Les milliers d'hommes et de femmes qui sont partis dans des pays lointains pour annoncer l'Évangile à des peuples non atteints. Et ça a duré longtemps. C'est extraordinaire. Et dans la plupart des cas, ils acceptaient de côtoyer la maladie et la mort pour la cause de l'Évangile. Et ils sont allés. Et les histoires de ceux qui sont tombés malades, les histoires de ceux qui sont morts, les histoires de ceux qui ont perdu des enfants à la maladie, dans tout ce grand effort, ces histoires sont là. Elles sont là et c'est le courage que je veux signaler en ce moment. Quand tu as la victoire sur la maladie et la mort, c'est que tu as aussi la victoire sur la peur de la maladie et de la mort. Pour illustrer, j'aimerais recommander un petit film que Cheryl et moi, on a trouvé à l'Internet vendredi, qui s'appelle « Damien de Molokai ». Molokai, c'est une île proche de Hawaï. « Damien de Molokai ». Et Damien, c'est un... En passant, je l'ai seulement trouvé en anglais sur YouTube. Mais nous, on comprend l'anglais, mais il existe en français aussi. Et Damien, c'est un missionnaire catholique. Et il a reçu un appel de Dieu d'aller dans l'île de Molokai. L'île de Molokai avait été transformée en une genre de quarantaine, un abri pour une énorme colonie de lépreux. À l'époque où la maladie de la lèpre était incurable. Et il ne fallait pas toucher, il ne fallait pas s'approcher des lépreux, mais lui est allé pour prêcher, pour leur annoncer l'Évangile, vivre avec eux, les aimer. Et Dieu lui a donné beaucoup de succès. Ils ont fondé comme une paroisse des lépreux et ils commençaient à croire en Jésus. Et ils priaient pour la protection de la lèpre. Et il l'a eu pendant longtemps. Sauf qu'à un moment donné, il a attrapé l'infection de la lèpre. Après plusieurs années, il est tombé malade. Mais le Seigneur lui a permis de continuer son ministère avec la lèpre. Dieu l'a protégé complètement pour plusieurs années, alors qu'il prenait d'énormes risques, et à un moment donné, il a attrapé la lèpre. Mais il a pu fonder une équipe pour s'occuper des lépreux, et finalement, lorsqu'il est mort de la lèpre, l'équipe a pu continuer le travail après lui. C'est un très beau film. Peut-être que ça vous trouble comme témoignage, mais dans la réalité, quand on lit les documents historiques, beaucoup de nos missionnaires ont vécu des histoires comme ça, des guérisons, des protections partielles. Dieu nous donne la victoire partielle, autant qu'on en a besoin, autant que lui a besoin de moi. Et à un moment donné, il peut décider de dire, « OK, c'est le temps que je t'appelle au repos céleste auprès de moi. » Et c'est comme ça que ça s'est passé pour Damien. Est-ce que vous me suivez? Amen. D'accord, OK. Bon, alors, mon quatrième et dernier point de vérité, notre motif pour rechercher la guérison devient important à ce moment-là. Il peut y avoir des centaines de raisons pour lesquelles Dieu met une maladie dans ma vie. Et en fait, Dieu ne met jamais. Dieu permet la maladie dans ma vie. Excusez-moi. Et il peut y avoir des centaines de manières que Dieu va me donner la victoire sur la maladie dans ma vie. Mais Dieu veut me donner cette victoire. Elle sera non pas pour me glorifier moi, ni ma foi, mais sa propre bonté à lui. Amen. Donc, c'est pour glorifier son nom à lui. Comme on a vu au début, le missionnaire qui a été guéri, et il veut glorifier la bonté de Dieu. Donc, si tu tombes malade, quelle va être ta motivation pour rechercher la guérison de la part de Dieu? Est-ce que c'est seulement le soulagement, la santé du corps? Est-ce que c'est seulement le soulagement? Qu'est-ce que tu vas faire avec ton corps guéri? Ton corps appartient à Dieu et à son service. Dans l'exemple de Laurie la semaine passée, la maladie était un canal par lequel Dieu voulait lui parler avant de la guérir. Et je crois que c'est important, ma sœur, mon frère, si tu es malade, prends le temps de rechercher la face de Dieu dans ta maladie ou dans ton accident. Il a peut-être quelque chose à te dire à propos de toi-même. Quelque chose qui va t'aider à mieux prendre ta place dans son royaume. Peut-être qu'il veut te préparer pour une guérison miraculeuse ou une guérison semi-miraculeuse. En tout cas, il veut te donner une victoire d'une manière ou d'une autre pour que tu puisses continuer à glorifier son nom. Donc, à la lumière de tout cela, je voudrais simplement conclure avec des lignes directrices pour notre pratique de la prière. Parce qu'on va continuer à prier pour ceux qui sont malades à l'Oasis. Mais voici ce que je vois comme important dans notre manière de faire. Premièrement, toujours rappeler à la sœur, au frère qui est malade, la vie de Christ est en toi. Et c'est cette vie-là qui va te donner la victoire. La vie de Christ est en toi. Deuxièmement, ce n'est pas nécessaire de précipiter la prière. Pas nécessaire de précipiter. Invite la personne qui te demande de prier pour elle de rechercher la face de Dieu. Et ensuite, si elle a une conviction, lorsqu'elle trouve la conviction, de prier avec cette conviction. Troisièmement, cherchons à prier avec conviction, avec une foi ferme. Quand on demande la guérison, Dieu aime ça quand on est convaincu. Quand on est convaincu qu'il est capable de la donner et qu'il veut la donner. Je crois que le calme est important. La foi ferme n'est pas nécessairement soumise à un besoin de fureur. On peut prier fermement et calmement. On n'a pas besoin de tordre le bras de Dieu en criant, ni forcer la foi de la personne devant nous. On peut le faire dans la sérénité de l'assurance de la foi. Et par ailleurs, il faut toujours honorer la souveraineté de Dieu dans notre manière de prier. On prie, mais c'est toujours lui qui va décider le comment. Et honorons Dieu dans notre manière de prier. C'est lui qui guérit, pas ma forme de prière, pas même ma foi. Dieu a été capable de guérir le jeune homme qui était agité par l'esprit méchant par une prière qui disait « Jésus, je crois, viens à l'aide de ma foi ». Jésus aurait préféré une prière plus sûre, mais il a guéri quand même. Et c'est pour ça qu'à l'Oasis, nous n'encourageons pas la prière « déclarer et saisir » qui peut conduire trop souvent à une attitude de présomption face à la souveraineté et la liberté de Dieu dans la guérison. C'est sûr qu'il y a autour de nous beaucoup de prédicateurs à la télévision et dans des églises, même à Montréal, qui vont insister sur cette manière de prier. Il faut déclarer et saisir. Nous, à l'Oasis, on prie en reconnaissant la souveraineté de Dieu dans la guérison. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la foi. Ça ne veut pas dire qu'on ne saisit pas cette promesse que là où deux ou trois s'accordent sur la terre pour demander quelque chose au Père céleste, il va l'accorder. Mon cinquième point, la communauté, c'est important. Voilà pourquoi Jacques, il dit, « Si tu es malade, appelle les anciens et ils vont prier pour toi. » Ensemble, on va discerner comment prier. Qu'est-ce que Dieu veut te dire? Peut-être qu'il y a un problème de péché dans ta vie, un problème de manque de sagesse, et ta guérison va passer par cela. Nous vivons dans une société où beaucoup de maladies sont causées par l'excès de travail, l'excès de stress, l'excès de pression que je mets sur moi-même. Peut-être que ta guérison doit passer par une repentance, par un changement de vie. La guérison est communautaire aussi. On se parle les uns aux autres. Et justement, mon dernier point, le dialogue. C'est bien qu'on prie pour les malades ici, dans le culte, mais des fois, on est pressé. Des fois, il n'y a pas de dialogue. Alors, même si on va continuer à prier pour les malades le dimanche matin, dans certains cas, ça va être mieux d'attendre. Dire, rencontrons-nous après la célébration ou chez toi. Prenons le temps. Moi, je veux entendre ton expérience. Je veux entendre pourquoi tu veux la prière. Et je veux prier avec toi, et je veux que toi, tu pries avec moi. Est-ce que j'ai un septième point? Non. Non. Voilà. Donc, je résume mes points. Premièrement, Jésus a pourvu une guérison finale pour nous, un corps parfait pour l'éternité. Deuxièmement, l'expérience de ce corps parfait, c'est partiel maintenant. Et la puissance de Christ se glorifie dans ta vie à travers le vase de terre que tu es. Mais tu peux quand même demander la guérison pour accomplir ce que tu as à accomplir, pour être soulagé aussi, et on va prier pour toi. Dieu va te donner la victoire d'une manière ou d'une autre. Mais avant, prends le temps de chercher la face de Dieu. Amen.
Amen.
Amen. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. J'ai aussi un dépliant, pas un dépliant, mais une feuille que ceux qui sont intéressés peuvent prendre. Ce matin, voilà une page du livre de M. Sipley. C'est un questionnaire que tu peux répondre si tu es malade, auquel tu peux répondre et qui va te permettre d'être préparé spirituellement pour la prière de guérison. J'en ai 24, alors il va en manquer peut-être un par famille. Je les passe. Prenez-en un et pourrons en reparler. Je sais que je n'ai pas tout dit. Puis j'ai pris beaucoup de temps en plus. Il y a plus à dire, sans doute. Mais que le Seigneur nous guide dans ce ministère important de la prière de guérison. Amen.